Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le meurtre du commandeur, c'est le titre du nouveau roman du japonais Haruki Murakami, un des auteurs les plus secrets au monde. On va tenter d'en savoir plus dans un instant avec Bernard Lehu. L'actu musicale marquée par Brawl, le premier album de la jeune sensation belge Angèle. Elle nous expliquera ce titre mystérieux au micro Steven Bellery. Et on découvrira également Les Rescapés, le nouveau disque du Brestois Mieux Sec. Nous jetterons un coup d'œil sur nos programmes télévisés du soir avec Isabelle Morini-Bosque. Et puis, c'est une exposition événement Caravage à Rome au musée Jacquemart-André. À Paris, l'occasion d'admirer plusieurs toiles du peintre italien, pour certains jamais vues en France, à suivre notre visite guidée en compagnie de Sophie Orange.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Événement grandissime ce jeudi en librairie avec la sortie du nouveau Haruki Murakami, l'auteur japonais élevé au rang de mythe vivant, non seulement au Japon mais par des millions de lecteurs dans le monde entier.
Oui, Murakami publie chez Bellefond Le meurtre du commandeur, une épopée de près de 1000 pages en deux volumes, bien dans son style entre réalisme et fantastique et dans la lignée de son précédent succès, la trilogie au titre ésotérique 1Q84, vendue tout de même au total en France après d'1,5 million d'exemplaires.
Alors avant de nous parler plus en détail de cette nouvelle œuvre monumentale, il faut revenir sur la fascination incroyable exercée sur son public par Murakami lui-même.
Oui, alors lié au-delà de la qualité de ses livres, au mystère dont il s'entoure, star mondiale de l'édition, Murakami est pourtant l'auteur peut-être aujourd'hui le plus secret de la planète, de rares photos et apparitions publiques, jamais de télé ni de radio, jusqu'à cet été où le maître a évoqué ses goûts musicaux sur une station de Tokyo, déclenchant une vague d'enthousiasme sans précédent chez ses lecteurs japonais qui découvraient enfin la voix de Murakami.
Bonsoir, je suis Haruki Murakami. C'est la première fois que je passe à la radio, alors il y a forcément beaucoup d'éditeurs qui entendent ma voix pour la première fois. Enchanté. Pendant les 55 minutes à venir, je vais diffuser des chansons que j'aime bien, je ferai quelques commentaires entre chaque titre et je répondrai aussi aux questions qui m'ont été envoyées. Je voudrais qu'on passe un bon moment ensemble.
Kumbawa, Haruki. Alors, un document donc, la voix d'Haruki Murakami, qui n'en continue pas moins de cultiver le secret, puisqu'il n'a accordé absolument aucun entretien pour son nouveau roman, donc Le meurtre du commandeur.
Une histoire étrange, envoûtante, un jeune peintre quitté par sa femme se réfugie dans une maison en pleine nature, occupée autrefois par un autre peintre célèbre. Dans le grenier, il découvre l'un des tableaux du maître, Le meurtre du commandeur, ou la mise à mort d'un vieil homme. Alors là, c'est le point de départ d'une épopée initiatique à mi-chemin entre rêve et réalité, quotidien et surnaturel, un univers à nul autre pareil, incarné par le commandeur, le vieil homme, littéralement échappé du tableau, il arrive tout chez Murakami, un personnage qui a épaté Hélène Morita, c'est la traductrice française de Murakami.
Alors il sort à la fois de l'opéra de Mozart, Don Giovanni, le commandeur, et en même temps, il est issu d'un tableau qu'on appelle Nihonga, c'est-à-dire à la japonaise. Donc vous avez une sorte de mixte absolument insensé entre un personnage issu de la tradition européenne et d'une tradition japonaise. Et ce petit personnage, donc de 60 cm, va se manifester avec beaucoup d'humour, d'intelligence, de bon sens, d'énigmes. Il parle d'une façon tout à fait étonnante. C'est délicieux, amusant, fascinant.
60 cm, c'est la taille du personnage dans le tableau et qui devient vivant. Outre cet univers si particulier qui fait son succès, Murakami a des passions, voire des marottes que son public aime retrouver de livre en livre. Il y a la musique, toujours très présente, et puis les voitures, avec un clin d'œil au lecteur français dans Le meurtre du commandeur.
Murakami est amoureux des voitures et des belles voitures et en particulier des anglaises.
Notamment, il y a une
notamment
Jaguar.
Notamment les Jaguars.
Et alors, je crois qu'il y a une 205 aussi.
Alors, il y a une vieille Peugeot 205.
Et donc, c'est la voiture de son narrateur.
C'est la première voiture, la vieille voiture de son narrateur qui va l'emporter justement vers le nord du Japon. Mais enfin, ces voitures, elles sont très très caractérisées. Elles sont personnalisées.
Ce sont des personnages à part entière.
Absolument.
Les Peugeot sont toujours vieilles. Hein. Il y a la 205 de Murakami et puis il y a la 403 de Colombo.
C'est drôle, oui.
Allez savoir pourquoi.
Faire plaisir au président du groupe.
Alors, tout ça, c'est à découvrir dans la nouvelle œuvre exceptionnelle du romancier japonais, Le meurtre du commandeur, dont les deux tomes paraissent aujourd'hui chez Belfond, traduit donc par l'excellente Hélène Morita. C'est un an et demi de travail, hein, tout de même, pour la traductrice et pour restituer, dans la langue de Molière, le style et le monde si original du grand Murakami.
Il faudrait un jour consacrer une émission à nos traducteurs, parce que c'est un métier absolument extraordinaire. Ouais. Dans quelques instants, la télévision avec Isabelle Morini-Bosque. Et puis on va parler musique, bien sûr, aussi avec Steven Mellery. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Notre page télévision commence par les audiences de la veille avec Médiamétrie, Isabelle.
Eh bien, tout se joue entre deux feuilletons, Esprit criminel sur TF1 et Nina sur la 2, 3,8 millions pour l'un, 3,2 millions pour l'autre, ce qui nous fait 17% du public sur la 1 et 14% sur la 2. Et alors, très bon score de M6 avec Le meilleur pâtissier, 2,8 millions téléspectateurs, c'est très fort, 15% du public et près de 25% des femmes sur la 6.
Non, je ris parce qu'il n'y a plus que vous et moi à employer le terme feuilleton. Vous savez.
Parce que c'est un vrai feuilleton.
Oui, d'accord. Parce que tout le monde appelle ça des séries maintenant. Je pense que le mot feuilleton a pris un petit coup de vieux. Alors, ce soir, on signale d'abord sur la 3 Line of Duty. C'est un feuilleton policier anglais. Hein.
Et un bond sur le quotidien d'une équipe de flics anticorruption. Comme toute production de la BBC, c'est complexe mais pas compliqué. Mm-hmm. Qui est gentil, qui est méchant, allez savoir. Justement, faut voir. Cette fois, l'équipe soupçonne une capitaine de police d'avoir bouclé et bâclé une enquête en inculpant un délinquant sexuel que la police scientifique, elle, juge innocent. C'est fin, c'est fort, c'est la saison 4 sur 5. Les autres ont été suivis ou pas sur France 4 et France O. Heureusement, pas besoin d'avoir vu ce qui a précédé pour apprécier ce qui va suivre. Quoi qu'il en soit, c'est ce soir sur la 3.
Pour ceux qui ne sont pas devant Francis Land ou l'arnaqueur hein, sur M6, y a un envoyé spécial sur la 2.
Notamment, une enquête grand public sur les nouveaux PV avec un contrôle qui se fait aujourd'hui par lecture de plaques et qui est désormais confié aux communes, sanctionnant souvent beaucoup et souvent via des sociétés privées. Mmh. Il y a beaucoup de révélations dans ce reportage. On découvre par exemple, moi je l'ignorais en tout cas, qu'il existe à Paris, des camions blancs dans lesquels des chefs espionnent leurs contrôleurs à distance, vérifiant le nombre d'amendes qu'ils mettent et leur vitesse d'exécution pour le faire, donc leur rendement. Écoutez la question du journaliste.
Donc là, vous pouvez suivre les deux agents en temps réel.
Tout à fait.
Et on peut suivre un agent en particulier sur son activité, pour savoir sa progression, son parcours, le cheminement qu'il a à travers son secteur d'activité.
Donc là, je viens taper le matricule de l'agent. Donc là, on voit qu'il est rue du Chalet, sur la zone de République. Donc il est géolocalisé en temps réel.
Aucun geste n'échappe au regard attentif des contremaîtres. Ils savent s'ils travaillent vite ou lentement.
Chaque fois que vous voyez un petit point vert, eh bien notre agent a contrôlé un véhicule.
Donc il ne peut pas remonter, se faire masser en essage.
Non, alors, voilà. Il vaut mieux pas. Oui, car bien sûr, c'est à l'insu de leur plein gré, comme on dit. La suite à 21h sur la 2.
Merci Isabelle. On passe tout de suite à l'actualité musicale avec Steven Bellery. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
La sortie du premier album d'Angèle, vous nous aviez parlé de cette jeune sensation belge en juin avant qu'elle ne fasse la tournée des festivals.
Oui, elle n'aura que 23 ans à la fin de l'année, mais elle est déjà une star des réseaux sociaux. Ses clips cumulent plus de 30 millions de vues grâce à une imagerie très travaillée, acidulée, sexy et décalée. Et à l'affût, un discours dans sa musique féministe, sophistiquée et percutante. Bref, Angèle est une curiosité. Mais pas seulement, exemple avec la thune.
À quoi bon ? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon ? T'es tellement seule avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps. Avec des miches de sans sentiments. Au fond, j'avoue que même moi.
L'album d'Angèle est un bonbon sucré et piquant qui permet à la chanson française de poursuivre sa mue. Son disque s'appelle Brol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réponse d'Angèle.
Alors le Brol, ça veut dire le désordre. C'est une manière de parler un peu symboliquement déjà de Bruxelles, parce que c'est plutôt un mot bruxellois. Et c'est une manière de parler de tous ces thèmes que j'aborde, dont on aimerait se séparer mais dont on ne peut pas vraiment. De mou, de flemme. Avec la thune, je parlais un peu de l'ego, du narcissisme aussi. Dans Jalousie, bah, c'est la jalousie. C'est chaque fois un peu des thèmes un peu frustrants qui entoure ma vie, qui soit un peu des broles.
Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Te veux, je crois ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là.
Je me
permets de tout faire, je me refuse rien, parce qu'avec l'autodérision, tout peut être pris de manière plus légère. Mais après, légère, ça veut pas dire dénudé d'idées derrière, parce que j'y ajoute un peu d'humour, un peu de recul, en fait, un peu de distance.
Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou pour moi. Tout est devenu flou.
Il y a aussi des fautes que j'ai gardées exprès. Genre tout le monde, il veut seulement la thune, c'est absolument pas français. À un moment, je dis dans une chanson, c'est les matins comme ça qui me font pleurer. C'est pas français non plus, mais c'est tout à fait voulu parce que ça apporte justement la naïveté et le recul.
C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
Elle s'appelle Angèle, son album Brol vient de sortir, des dates de concert prévues partout jusqu'au mois de mars.
Au rayon disque également, le retour de Mieux Sec. Le Brestois vient de sortir Les Rescapés. C'est son 11e enregistrement, Steven.
Oui, dans lequel le chanteur de 53 ans est pas à nouveau. Exit l'accordéon de son dernier album. Christophe Mieux Sec lorgne vers une production plus synthétique. Exemple avec Je suis devenu.
Je suis devenu ce qui me pendait en bout du nez. Je n'ai rien à dire là-dessus, ça devait bien un jour arriver. Je suis devenu ce que j'ai fabriqué. Et je ne sais vraiment plus.
Ses textes sont encore plus bruts, concis, ramassés. Chaque mot est choisi. Il évoque le monde qui bouge, la mer, portraitise des infidèles, 21 ans après sa chanson La Fidélité, ou évoque sa passion brûlante et nouvelle pour la scène dans trois titres. Mieux Sec cesse de murmurer, il chante et s'assume, confidence.
Ouais, c'est de se tenir un peu plus droit qu'avant. Oui, je voulais que ça soit clair, que la voix soit pas caché derrière la musique et se planquer quelque part. Et la voix également, j'ai mis une éternité. Au départ, moi, je comprenais pas pourquoi on pouvait écouter ce que je faisais réellement sans fausse modestie. Et avec les années, je me suis un peu laissé aller, enfin, je me suis un peu abandonné au fait que ma voix puisse être un instrument également, que la voix ne serve pas qu'à raconter platement des histoires.
On meurt du pire, on meurt d'un rien, on meurt n'importe comment ou de façon extraordinaire.
Bien cette idée de chanson populaire en fait. J'aime bien l'idée que ce qui est dit puisse rentrer tout de suite dans l'oreille, dans le cerveau, que ça soit compréhensible. Enfin, pour moi, c'est de la tradition orale en fait, de la chanson. Enfin, une chanson ne devrait jamais être lue. Une chanson sur le papier, elle est morte. Enfin, c'est de la mauvaise poésie. Et puis dans la concision, il faudra peut-être que j'arrête un jour parce que ça va finir avec plus rien du tout.
Quand tu étais la mâchoire, quand tu le brouillard, quand tu étais la méthadone, quand tu étais son âme, quand tu étais son âme, sous le ciel.
Les Rescapés, un grand cru signé Mieux Sec. L'album vient de sortir, le chanteur est déjà en tournée. Il sera Salle Playel à Paris le 21 mars.
Formidable ambiance, ce journal musical était signé Steven Bellery. Dans quelques instants, nous allons vous parler de Michelangelo Merisi. Vous le connaissez mieux sous le nom de Caravaggio.
RTL, laissez-vous tenter.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le musée Jacques-Marandré frappe fort avec sa nouvelle exposition Caravage à Rome. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
C'est un événement, le peintre italien attire toujours des foules extraordinaires.
Dès qu'on prononce son nom Caravage, oui, forcément ça évoque exactement à lui tout seul l'histoire de la peinture avec un grand H ou un grand P. 10 Caravages sont présentés à Paris, 10 sur 56, 58, peut-être 60 tableaux grand maximum qu'il ait réalisé. Et sur ces 10, c'est bien simple, 7 n'ont jamais été vus en France. Il faut dire que les musées ou les collectionneurs qui les possèdent ont quand même bien du mal à s'en séparer, même pour quelques mois.
Oui.
Vous l'avez compris, il s'agit bien d'une exposition unique sur les années que Caravage a passées à Rome entre 1592 et 1606. Caravage, qui, soit dit en passant, vous le disiez tout à l'heure, s'appelle en fait Michelangelo Merisi. Il venait de Caravaggio, d'où son pseudonyme, son nom de scène, devenu mondialement célèbre. Caravage, donc, est surtout connu pour ses clairs obscurs, comme si un projecteur éclairait ses tableaux. Mais pour Pierre Curie, le conservateur du musée Jacques Marandré, Caravage, c'est beaucoup plus que cela.
Il a en quelque sorte sculpté ses peintures hein, dans la lumière et dans cette opposition des ombres et des lumières. Mais la peinture de Caravage, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il peint autre chose, il peint quelque chose derrière les images qui nous touche, qui nous émeut au-delà des siècles très facilement en fait. C'est un artiste aussi qui travaille à la prima, qui attaque son sujet directement sur la toile. Il n'est pas comme ces artistes intellectuels de la période précédente qui font beaucoup de dessins préparatoires, qui réfléchissent. Il invente les images au moment où il les peint. Elle surgit de la tête du peintre. Enfin, c'est absolument extraordinaire.
Dit Caravage et autant de chefs-d'œuvre. Le premier tableau qui accueille le visiteur vous saisit d'entrée. Judith décapitant Holoferne, thème biblique par excellence, très connu dans la Rome de cette époque-là. Caravage en fait un chef-d'œuvre d'un incroyable réalisme.
C'est une scène d'une très grande violence. On y voit Holoferne hurlant de douleur au moment où Judith lui tranche la gorge. Le sang gicle pratiquement au nez du spectateur, tandis que sur la droite, une vieille servante avec un air absolument abominable attend qu'on lui donne la tête. Tous ces tableaux sont très expressifs. L'image se lit immédiatement. C'est d'une force très inédite par rapport à tout ce qui s'était peint avant lui.
Et pour la petite histoire, il faut le savoir que le commanditaire de ce tableau le présentait derrière un rideau qu'il ne découvrait qu'au dernier moment pour provoquer le choc et la stupeur.
Le sens de la mise en scène. Oui. Alors Caravage était célèbre dès ses débuts.
Oui, quasiment. Ouais. Au départ, lorsqu'il arrive à Rome, il était spécialisé dans les natures mortes. Mais très vite, son style s'affirme, son audace, son génie s'imposent. Et dès 1600, il reçoit des commandes très importantes du trésorier du pape pour décorer des grandes églises de Rome. Saint-Louis des Français ou Santa Maria del Popolo, par exemple. Vous savez, ces tableaux qu'on doit voir en mettant une petite pièce hein, dans une urne dans les églises en Italie. Et là, c'est un changement très important. Caravage n'est pas vu des seuls collectionneurs, des marchands d'art, mais par le public. Son nom est même cité en 1604 dans un livre aux Pays-Bas. C'est pour vous dire qu'il est vraiment connu dans toute l'Europe. Autre révolution apportée par Caravage, la peinture sur modèle et non plus comme ses prédécesseurs sur des sculptures antiques. C'est peut-être ce qui donne une telle force à ses tableaux. Caravage montre des corps, Saint Jean-Baptiste tenant un mouton et surtout le Saint Jean-Baptiste au bélier. Et puis, il ose peindre des scènes de musique profane, comme le joueur de luth, qui est habituellement à l'Ermitage en Russie. Il est montré pour la première fois après 2 ans de restauration. Il est, je trouve, très sensuel.
J'imagine qu'il y a d'autres tableaux de Caravage dans l'exposition.
Oui, ceux de certains de ses amis et certains de ses ennemis, une trentaine d'œuvres au total. Ses ennemis ont dû faire du Caravage, même si ça leur déplaisait, c'est un comble, parce que sa peinture a tout balayé. Il faut savoir que c'est un monde très concurrentiel, tout le monde se disputait les commandes, hein, évidemment. Ah oui. Et l'un de ses rivaux, Baglione, en peignant l'amour sacré terrassant l'amour profane, aurait même donné au diable le visage de Caravage, des disputes qui sortaient très largement des simples ateliers.
Caravage n'était pas un saint, mais alors il faut bien comprendre qu'il n'était pas le seul. C'est-à-dire, bien sûr, il y a cette violence dans sa vie qu'on connaît à travers les différents procès, les passages en prison. Beaucoup d'artistes avaient une vie très 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 violente aussi. C'était un des petits milieux presque de bandes rivales que ces artistes. C'était un monde interlope avec en effet des prostituées, des spadassins, des bravi, tous ces jeunes hommes très très nerveux sur la poignée de l'épée.
Et ça va très mal finir hein, pour Caravage qui tue un peintre le 28 mai 1606, sans doute pour une histoire de rivalité autour d'un modèle, une histoire de femme. Caravage doit fuir Rome grâce à ses protecteurs. Il continue de peindre et toujours des chefs-d'œuvre. Mais ses tableaux s'assombrissent et quelques rares touches de lumière émergent. Mais il finit par mourir malade en 1610 à l'âge de 38 ans. Dernier hommage de Pierre Curie.
Sa personnalité artistique est vraiment très moderne, en fait. C'est le premier des grands peintres modernes. Il y a bien sûr son histoire personnelle qui contribue à cela, mais il y a la qualité de ses tableaux. Je veux dire, s'il n'était pas un peintre génial, et je pèse mes mots, c'est un peintre génial.
Le Caravage, hein, c'est presque devenu un nom commun. Caravage, donc au musée Jacques Marandré à Paris, donc jusqu'au 28 janvier.
Merci pour cette...
La même année qu'Henri IV.
Voilà. Et bien, très bien.
Les grandes obsessions d'Isabelle Morgos.
Oui,
les correspondances entre dates. Dans un instant, on va essayer de rendre l'antenne à l'heure à Julien Courbet. Ce serait une grande première dans ces tout derniers jours. Et demain, nous aurons avec nous le vrai Pascal Obispo pour son nouvel album.
Exactement, nouveau disque avec beaucoup d'invités, notamment une chanson avec Isabelle Adjani. On écoutera tout ça.
Je suis curieux de tout ça.
Il est formidable son album.
Rendez-vous demain dans Laissez-vous tenter dès 9h en direct avec Pascal Obispo. Et tout de suite, nous retrouvons Julien Courbet.
Merci beaucoup, amis de l'info.